Bonsoir, président à vie Xi Jinping, hein, qui cumule déjà tous les pouvoirs, va-t-il régner une ou deux décennies de plus sur la Chine? Oui, le Parti communiste chinois ouvre en effet la voie à la levée de la limite constitutionnelle à deux mandats pour celui qui fait déjà figure d'hyper-président. Il a 64 ans, il est en pleine santé. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier empereur qui relatait l'histoire de Puyi, cet enfant arrivé au pouvoir juste avant la proclamation de la République de Chine en 1912. Alors plus de 100 ans après, la Chine va-t-elle se doter d'un nouvel empereur? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho pour tout comprendre. Yann, tout comprendre de la Chine. Hein. Je vous renvoie sur le livre de Valérie Niquet, La puissance chinoise en 100 questions. Un géant fragile, se demande-t-elle, elle nous accompagne. Avec nous, Jean-Paul Chang, économiste ancien qui est spécialiste de la Chine, qui a traduit Tianxia, tout sous un même ciel, du célèbre philosophe Zhao Tingyang. Je ne l'ai absolument pas bien prononcé, mais en tout cas, ça va sortir très prochainement. Philippe Thiby, président de l'école d'économie Pergamon Campus, qui enseigne à l'IX, qui enseigne également à Pékin pour des dirigeants d'entreprise. Léon Lelusa, directeur général adjoint de l'ESCP Europe. Et puis dans une vingtaine de minutes, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin nous rejoindra. Il préside actuellement la Fondation Prospective et Innovation. Alors, le comité central, c'était ce dimanche, le Parlement du Parti communiste chinois, en quelque sorte, propose d'effacer de la Constitution la mention stipulant qu'un président ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs de 5 ans. Bon, Valérie Niquet, concrètement, il resterait combien de temps Xi Jinping? Il doit normalement quitter ses fonctions en 2023, on est en 2018. Alors,
ses fonctions de président, pardon.
Président, oui.
Mais en revanche, il pouvait tout à fait rester chef du Parti communiste.
Il n'y a pas de limitation.
Alors,
pour ça.
La difficulté que certains se posaient, c'était que est-ce qu'il pouvait cohabiter avec un président différent? Ça aurait été possible, mais il y aurait eu une sorte de bicéphalisme à la tête de la Chine et du Parti. Et on voit bien, en tout cas, pour le moment, que Xi Jinping a l'air d'être plutôt sur une orientation de contrôle total, son objectif étant évidemment de resserrer les vis un peu partout pour éviter que la Chine ne parte un peu dans des directions qui ne sont pas celles qu'il souhaite, notamment en relation avec le pouvoir du Parti communiste.
Donc, parce que quoi, il veut se donner du temps pour achever son œuvre, but, assurer, je cite, la renaissance du pays en faisant un pays développé, doté d'une influence mondiale, d'une société prospère, oui, d'une armée puissante. Il n'a pas fini le boulot, il veut le poursuivre.
Le boulot n'est jamais fini dans la mesure où son objectif ultime, c'est que le Parti communiste reste au pouvoir en Chine. Donc, oui, ça passe par le rêve chinois, par tout ce que vous avez dit. Donc le travail n'est effectivement pas terminé. Alors vous avez parlé de l'empereur Puyi qui était un enfant sans pouvoir. On a beaucoup parlé ces derniers jours avec ce changement de statut de Xi Jinping, de Yuan Shikai qui est un fonctionnaire mandchou qui avait participé à la révolution de 1911 à la fin de la dynastie chinoise et qui lui aussi a été tenté et qui s'était doté du titre de nouvel empereur, de fonder une nouvelle dynastie, mais il n'a pas duré très très longtemps. Donc je ne sais pas si ces ambitions de Xi Jinping sont le signe d'une très grande puissance ou au contraire le signe d'une fin de régime où désespérément on essaye d'accumuler tous les pouvoirs pour y rester. Justement,
on verra s'il n'y a pas de risque. Le processus, il ira jusqu'à son terme. C'est lundi, hein, la session annuelle plénière de l'Assemblée nationale populaire. Il y a Xi Jinping qui est derrière, quand même, nécessairement. C'est lui qui a demandé, quand même, quelque part, de rester un peu plus.
Il a demandé et il serait quand même... Alors là, ce serait une vraie surprise, assez amusante, d'ailleurs, si cette proposition n'était pas acceptée. A priori, ça devrait être entériné sans aucun problème.
Oui, Jean-Paul Chang, hein, depuis son arrivée à la tête du parti, c'était en 2012, il concentre tous les pouvoirs sur sa personne. Hein. Depuis 5 ans, il place des hommes à lui dans tous les échelons. Il bénéficie d'un quasi-culte de la personnalité. Ça serait le diable, en effet, comme le dit Valérie Niquet, que lundi, il n'obtienne pas les pleins pouvoirs, entre guillemets, président à vie.
C'est vrai. Disons que ça s'est pas fait en un jour. Hein. Je veux dire, depuis 2012, il y a eu énormément de difficultés à s'imposer. Il a fallu qu'il crée quand même beaucoup de groupes de travail au sein du comité central se charger d'un certain nombre de secteurs clés. Il a mené une campagne anticorruption très très large, puisqu'il y a plus d'un million de fonctionnaires du parti et autres dignitaires qui ont eu des problèmes.
Prétexte ou pas pour dégager tous ceux qui faisaient un peu d'ombre.
Il y a les deux. Mais disons que tout ce qu'on voit depuis 5 ans, c'est que le chemin de Xi Jinping n'est pas un chemin facile. Ce que je veux dire, c'est un parcours qui a été très difficile. Il a rencontré quand même énormément de difficultés, de résistance. Et surtout, je parle même pas de résistance dans la société ici et là. C'est pas ça. Je pense que c'est de la résistance de la part de ce qu'il appelle des groupes d'intérêt qui sont formés à l'intérieur du parti même. Or, comme il a un programme de réforme relativement ambitieux qu'il est en train de mener, ses adversaires peuvent être tout à fait tentés de dire, oh, écoutez, on n'a qu'à faire le gros dos pendant 5 ans, puisqu'au bout de 5 ans, il va s'en aller. Et là, il y a un message quelque part de dire, attendez, je commence et je mènerai ça jusqu'au bout. Et
alors, jusqu'au bout, c'est quoi? Je cite le politologue Willy Lam depuis l'université chinoise de Hong Kong, qui apparemment est bien informé au cœur du pouvoir chinois, qui expliquait il y a quelques heures, si sa santé le lui permet, il souhaite rester au pouvoir 20 ans jusqu'en 2032 comme secrétaire général du parti et 2033 en tant que président de l'État. Xi Jinping, il aura 80 ans en 2033. Oui, il a encore le temps quand même.
Oui, mais Willy fait des projections, effectivement, pour moi un peu lointaines. Rassurez-vous, moi personnellement, je fais le pari que Xi Jinping, il fera un nombre fini de mandats. Je pense plus probablement 3 que 4, mais je pense que actuellement, comme toute l'équipe de Xi Jinping a été formée, comme lui d'ailleurs, dans ce qu'on appelle une conscience de crise. Il est persuadé que la Chine est rentrée dans un contexte de crise à l'extérieur comme à l'intérieur. L'intérieur parce qu'il faut faire des réformes très dures et très difficiles. On le voit d'ailleurs dans le secteur financier, pour commencer, la mise sous tutelle d'un certain nombre de compagnies d'assurance qui n'ont pas joué le jeu d'ailleurs sur le marché financier depuis quelques années et qui sont manipulés par des groupes d'intérêt à l'intérieur du parti. Ça, c'est une première chose. Et à l'extérieur, le contexte change très vite. On ne sait pas les relations sino-américaines, etc. Et
donc, la Corée du Nord,
quelque part, si vous voulez, il y a un côté un peu tacticien de dire, il faut que mes ennemis, en tout cas mes adversaires, quelque part, se rendent compte que je suis là et je vais mener mon œuvre jusqu'au bout et n'attendez pas à ce que je dégage automatiquement au bout de 5 ans.
Je vous donne la parole, Philippe Thibillet, on le lisa. Et puis, dans sa tête aussi, il y a un traumatisme du grand pays voisin également, les années 90. Gorbatchev, pas question de connaître, une telle déconfiture quelque part.
Mais ça, c'est un peu dépassé. C'est un peu dépassé. Je pense parce qu'ils sont quand même très confiants dans le succès finalement de leur système sur le plan économique en tout cas. Et il y a eu des grands progrès qui sont incontestables. Ils ont l'impression d'avoir beaucoup d'achèvements un peu partout, enfin dans différents domaines. Donc là-dessus, ils sont moins, même si quelque part, à l'origine, il y avait cette crainte d'une déconfiture à l'Union soviétique. Mais je ne crois pas aujourd'hui que ce soit l'élément déterminant. L'élément vraiment déterminant, c'est les grandes réformes qu'il est en train de mener dans le secteur financier et industriel.
On en parlera, bien sûr.
Le vrai pouvoir.
Financier avec des menaces, en effet, dans le secteur financier. Puis on voit également ce qui pèse sur l'économie chinoise, on y reviendra, la dette des gouvernements locaux qui a bondi l'an dernier et tout ça, évidemment, est aussi fragile. Juste un mot, Valérie Niquet, avant qu'on entende Philippe Tibi et Léon Lelusard.
Oui, non, mais effectivement, l'exemple soviétique ne fonctionne pas en ce qui concerne l'économie.
Bon.
En revanche, politiquement, il y a vraiment cette volonté de ne pas subir le même sort que le Parti communiste chinois et donc de tenir la maison
soviétique,
et de tenir la maison. Et ça passe effectivement par des affirmations d'autorité auxquelles les Chinois avaient un peu perdu l'habitude, en fait, depuis Deng Xiaoping. Et donc, il y a vraiment une reprise en main, y compris idéologique, et un contrôle de la presse, par exemple, d'Internet, qui est très, très ferme.
Ce matin, encore, la censure qui a vite bloqué les images de Winnie l'ourson. Alors, il est souvent comparé à Winnie l'ourson, le président Xi, en raison de sa silhouette. Weibo, également, c'est le Twitter chinois qui a commencé aussi à bloquer la recherche du terme limité à deux mandats. Voilà, limité à deux mandats, tout ça, ça a été coupé donc depuis ce matin. Philippe Thibi, enseignant à Pékin, enseignant à l'IX, votre regard justement sur cette actualité?
Je suis assez d'accord avec Jean-Paul. Je pense que la Chine a le culte du long terme et le culte de la stabilité. Et je pense que l'analyse qui est faite à Pékin, mais partout dans le monde, c'est qu'on rentre dans une période beaucoup plus difficile, période d'une mondialisation qui n'est plus dirigée par les États-Unis, une période de tension géopolitique beaucoup plus forte. Le dirigeant chinois a besoin de temps pour mener à bien sa politique. Donc on ne sait pas.
Combien de temps aussi ?
Non, mais ça on ne sait pas. Mais je pense que tout le monde attendait des réformes. De la part de Xi Jinping, et elles ont été relativement timides. Alors peut-être parce qu'il y avait des groupements d'intérêts locaux ou les entreprises d'État qui eux-mêmes ont qui sont un frein au développement de la Chine aujourd'hui. En tout cas, ils sont
frein. Ce que vous voulez dire, c'est que il y a encore du tangage quand Xi Jinping lance une réforme. Ça ne suit pas toujours immédiatement, c'est ça ?
C'est un pays immense, avec des pouvoirs locaux qui sont considérables, qui ont des relais politiques au sein des instances politiques supérieures de la Chine. Donc il y a des résistances. Je pense que c'est une décision qui était attendue de la part de la Chine, et c'est aussi une décision qui accentue, je dirais, le système de l'homme fort, qui on voit dans les pays voisins, à commencer par la Russie, la Turquie qui est pas si loin non plus, qui est pas si loin, voire les États-Unis, dans lequel il y a une perte de vigueur des valeurs occidentales, pour autant qu'elles aient jamais eu un grand succès en Chine, mais dans lequel il faut faire des choses différentes. Et en tout cas, l'idée d'avoir un système de contre-pouvoir, d'élections, en tout cas de choix de dirigeants, j'ai vu ce matin une traduction d'un article du quotidien du Peuple qui attaquait le système libéral, en disant que c'est un système qui fonctionne pas, qui élit des dirigeants incompétents, et les contre-pouvoirs sont en fait le prétexte à l'immobilisme. Donc il y a beaucoup, la Chine est d'un point de vue économique dans une période très sensible, c'est-à-dire qu'elle est à un niveau de PIB par tête qui n'en fait pas un pays riche, en tout cas les riches chinois ne sont pas riches, le PIB par tête c'est le 70e au monde, même si la Chine est la deuxième économie du monde. Pour avancer, il faut avancer significativement dans la technologie, dans la productivité, et pour cela, il a besoin de temps, il a besoin d'autorité. Donc je pense que c'est une des lectures possibles.
Oui, Jean-Paul Chang, Xi Jinping, il est clair, hein, nulle organisation ni individu n'a le privilège d'outrepasser la Constitution ni la loi. Voilà, il s'impose, il verrouille, et on fait les réformes, et on se donne le temps de faire les réformes.
Oui, alors, je connais d'autres pays qui procèdent à des réformes constitutionnelles ou qui envisagent de le faire. Donc, en soi, une réforme constitutionnelle n'est pas quelque chose de terrifiant. Mais je pense que c'est vraiment le contexte. Le contexte, et j'insiste sur le contexte international. Le problème de la Corée du Nord n'est pas résolu.
Non.
Le problème de Taïwan, qui fait partie des ambitions de Xi Jinping, qu'au cours de son mandat ou de ses mandats, il veut réunir la Chine, politiquement. Troisième chose, vous avez dans la mer de Chine méridionale, vous avez un groupe de porte-avions américains qui vient d'arriver. Donc tout ça fait que, quelque part, je vous dis, il y a cette histoire de conscience de crise. Donc si Xi Jinping et son équipe ont l'impression que le contexte ressemble beaucoup à une série de crises à venir, donc le fait d'affirmer finalement la continuité du leadership chinois, en tout cas, c'est quelque chose de ressenti comme nécessaire, aussi bien pour l'intérieur que vis-à-vis de l'extérieur. Voilà.
Léon Leluzac, on n'a pas encore entendu, directeur général adjoint de l'ESCP Europe.
Moi, je pense que la Chine cherche un nouveau modèle. Ce n'est pas la monarchie, mais c'est un nouveau modèle. Et effectivement, je rejoins ce que dit Jean-Paul en disant que c'est pas. On se trouve dans une instabilité au niveau mondial, politique. On se trouve un nouveau leader. Et je pense que Xi Jinping, il incarne ce nouveau leader chinois. Et il a une influence à faire au niveau mondial. Et je crois aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je crois que, justement, c'est pas lui qui a choisi, on va dire, c'est le comité du parti. Donc je crois qu'il faut être prudent. Puis aussi, c'est la semaine prochaine. Donc rien n'est encore.
Avant qu'on accueille l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, Valérie Niquet. Xi Jinping, il arrivait au pouvoir en 2012. C'était pas évident quand même au début, au départ. C'était un homme sans caractère, sans envergure. En moins qu'il cachait son jeu, je ne sais pas. C'est un homme qui n'a cessé de s'imposer. Secrétaire général du PCC, président de la République, dirigeant de la Commission de sécurité nationale et des conseils exécutifs en matière d'économie, de réforme. Il a été nommé donc commandant en chef des armées. Il a pris le temps, mais il s'est imposé.
Enfin, toutes ces fonctions-là font partie de celles qui sont attribuées au secrétaire général du Parti communiste chinois, président de la République et chef des armées. Donc, même si ses prédécesseurs parfois avaient attendu un peu, c'est tout à fait normal. Il avait été choisi parce qu'il faisait beaucoup plus consensus que ce fameux dirigeant de Chongqing qui avait été arrêté comme étant voulant revenir à une sorte de néo-maoïsme qui effrayait. Finalement, finalement, on s'aperçoit que Xi Jinping, dans sa manière d'être, une sorte de culte de la personnalité qui est quand même beaucoup plus évident qu'avant, il a quand même été éduqué en pleine adolescence, en pleine révolution culturelle, avec des souvenirs pas forcément très très réjouissants, mais en tout cas qui ont
forgé... Son père faisait partie de la, oui, de la garde rouge.
Mais
et après...
en même temps, il non, a vu aussi...
Non,
il a été...
Pas garde rouge. Non, pas garde rouge, mais de la garde rapprochée de Mao Tse-tung.
Il était très proche de Mao, mais enfin, c'est une période où ceux qui s'en sortaient étaient ceux qui faisaient preuve d'une très très grande force de caractère, et manifestement, Xi Jinping en a été capable. Donc c'est aussi pour ça, sans doute, qu'il peut s'imposer aujourd'hui.
Bonsoir, Monsieur le Premier ministre.
Bonsoir à vous, bonsoir à tous.
On va vous donner la parole dans un instant. Jean-Pierre Raffarin, l'actuel président de la Fondation Prospective Innovation, qui consacre beaucoup de temps justement à la Chine, aux relations d'investissement entre la France et la Chine. Xi Jinping, président à vie, nouvel empereur. En tout cas, l'allégorie, elle a séduit les marchés. C'est ce que nous raconte Justine Vassogne. On revient juste après, écoutez.
Sur les marchés chinois, il fallait miser sur la valeur empereur. Aujourd'hui, à l'annonce de la fin de la limitation des mandats présidentiels, des millions de boursicoteurs se sont rués sur des actions bien spécifiques, celles d'entreprises avec dans leur nom le mot empereur ou impérial. Une demi-douzaine de sociétés dans des secteurs très variés ont ainsi vu leur cours s'envoler. Le fournisseur de cartes à puces, Shenzhen Empereur Technology, a bondi de 7% à la clôture à Shenzhen. Le producteur de pâtes de poulet marinées, l'empereur des empereurs, a lui terminé en hausse de près de 3%, plus 4% de gagnés, cette fois à Shanghai pour Harbin Viti Électronique, dont le nom chinois Weidi véhicule l'idée d'empereur puissant. Les investisseurs individuels, très nombreux en Chine et très superstitieux, pèsent encore beaucoup sur les bourses locales. Lors de la dernière élection présidentielle américaine, une action avait ainsi battu des records. L'action Wisesoft, dont le nom en chinois ressemble beaucoup à grande victoire de Trump.
Voilà, les bourses chinoises en hausse ce matin, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong. Jean-Pierre Raffarin, alors il y a beaucoup de symbolique, beaucoup de superstition peut-être. Le nouvel empereur, c'est Xi Jinping ou pas, à vos yeux ?
Bon, on peut pas résumer ça simplement au mot empereur. C'est évident que c'est quelqu'un qui, depuis qu'il a conquis le pouvoir, a progressé dans l'exercice du pouvoir. Je dirais à la fois dans sa manière de rayonner, mais aussi dans sa manière de concentrer les pouvoirs. Et progressivement, il s'installe dans cette position très puissante. Donc, méfions-nous du mot empereur qui, dans ce pays, a des connotations profondes. Mais disons que c'est un dirigeant extraordinairement puissant. Il revient sa pensée vient dans les statuts du parti, donc on le compare au plus grand. Donc il s'agit là d'une place qui est donnée à quelqu'un dont on parie sur la grande puissance. Moi, je vois deux lectures dans tout cela. Il y a une lecture peu occidentale et politique qui est de se dire, finalement, voilà, on prolonge, et c'est assez traditionnel dans les régimes autoritaires de vouloir se prolonger. Il y a une autre lecture aussi qu'on peut avoir, c'est quand même qu'il s'est lancé sur un projet considérable, qui sont les routes de la soie. Je vois pas qui peut mener à bien ce projet.
Échéance 2049, donc pour ces dizaines de milliers de kilomètres.
Les doubles centenaires, voilà. C'est l'objectif.
Bien sûr.
Mais au fond, c'est un objectif sur le siècle. Il s'agit de 1000 milliards de dollars. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de difficile. Ouais. Le Japon, l'Australie, l'Inde, regarde ça avec un regard méfiant. L'Europe elle-même n'est pas spontanément favorable. Il faut discuter, tout ça.
L'Europe de l'Est est favorable, justement. Ça sera une sorte de contrepoids par rapport à l'Europe de l'Ouest, justement, des pays comme la Hongrie,
donc,
par exemple.
Il y a, je crois, un très grand projet qui est l'Eurasie, qui est au fond de créer ce continent qui est le continent de la stabilité du monde, avec une Amérique incertaine, avec la possibilité de tendre les mains à l'Afrique. Donc il y a une vraie stratégie. Cette stratégie, elle est de long terme. Et elle doit être portée par quelqu'un d'extraordinairement puissant, parce que c'est très compliqué. Donc il y a ces deux éléments. Si on regarde ça avec nos lunettes habituelles et politiques occidentales, c'est un autoritaire qui prolonge son autorité.
On va y voir.
Si on regarde
voilà,
ça,
c'est ça. C'est pas un régime
Chine,
qui se poutinise a priori.
On se dit, il faut quand même quelqu'un de très puissant pour porter un tel projet. Il s'agit quand même d'un énorme plan Marshall. Il s'agit d'une opération au fond, extraordinairement puissante, qui révèle le nouveau statut de la Chine, qui est passé d'un statut d'émergence à un statut de leadership. Et donc, dans cette compétition mondiale, on voit Erdogan, on voit l'Iran, on voit Poutine, on voit Trump, tout ça. Et les Chinois doivent se dire aussi qu'ils ont besoin de leur leader. Et nous, on en a un. On a le plus jeune. On est tout content, très fier de l'afficher. Mais chacun a besoin de son leader. Et quand on en a un, on le tient.
Ah oui, donc c'est pas forcément une poutinisation du pouvoir, Jean-Paul Cheng, finalement, comme l'explique l'ancien Premier ministre. Derrière, il y a un réel projet économique et que, à ses yeux, seul Xi Jinping peut le mener.
Ah, je suis persuadé, en utilisant l'expression dans la tête de M. Xi Jinping, utilisée par un journaliste français qui a écrit un livre là-dessus, je pense que dans sa tête, c'est une mission tellement importante qu'on ne peut pas laisser d'incertitude, ou en tout cas un obstacle artificiel de nombre de mandats, et que à ce moment-là, tous ceux qui sont contre ces projets, contre ces réformes, vont dire on va faire le gros dos, on va attendre encore 5 ans, comme ça, ils sont partis. Alors que là, non, je pense qu'il y a de ça, il y a de ça. Mais ceci dit, ne sous-estimons pas les interrogations parmi les Chinois.
Tout juste.
Même entendu chez les étudiants chinois de Paris, il y a des discussions assez parce que tout le monde ne perçoit pas totalement. Toutes les dimensions finalement de ces propositions-là.
Comment c'est commenté justement Valérie Niquet en Chine? Je cite par exemple sur Weibo, le Twitter chinois que j'évoquais tout à l'heure. Arg, nous allons devenir la Corée du Nord, disait un utilisateur de Weibo. Qu'est-ce qui se dit là-bas depuis quelques heures?
Je n'étais pas en Chine, donc peut-être que Jean-Paul Cheng a plus d'informations que moi ou d'autres ici. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des débats sur la politique en Chine parmi les jeunes, que tout le monde n'est pas d'accord, que notamment beaucoup s'interrogent sur la volonté réelle, ça c'est un vrai débat qu'on peut avoir entre nous aussi, de réformes profondes de la part de Xi Jinping. Beaucoup expliquaient les décisions de Xi Jinping par sa volonté, effectivement, de mettre enfin en œuvre des réformes. D'autres vous disent que, finalement, depuis 2012, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu, mais que ces réformes, elles mettraient en danger le fonctionnement même du Parti communiste tel qu'il existe aujourd'hui, au-delà des centres d'intérêt, des lobbies qui sont très puissants, et que donc, ce qui freine le plus les réformes, c'est justement cette inquiétude de remettre en cause les bases du système, d'un système qu'on ne veut pas voir disparaître. Et ça explique aussi ces projets grandioses de route de la soie, parce que c'est un moyen un peu d'exporter aussi cette image de prestige et de puissance à l'extérieur, sans toucher trop à l'intérieur de la Chine. D'autres vous diront aussi que, avec ces projets gigantesques, la Chine, on le rappelait tout à l'heure, est la deuxième puissance économique mondiale, mais a des besoins colossaux. La croissance a ralenti. Et certains considèrent qu'aujourd'hui, ces projets immenses existent beaucoup dans le discours, un peu dans la réalité. Mais la Chine a besoin de soutien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle se rapproche du Japon, par exemple. Elle aimerait beaucoup que le Japon participe à ces projets financièrement. Mais elle pourrait également être overstretched, comme on dit en anglais. J'ai oublié le mot en français, c'est-à-dire étendre trop largement ses ambitions pour un pays qui a encore besoin d'une manière colossale de se développer à l'intérieur de la Chine elle-même.
Il y a un décalage, Jean-Pierre Raffarin, entre ce que veut la Chine, les ambitions de la Chine, et ce qu'elle est capable, finalement, de produire en réalité.
Ils n'ont pas la même échelle de temps. J'ose à peine parler de ces sujets devant Valérie Niquet, qui les connaît beaucoup mieux que moi. Mais au fond, ils se donnent le temps. Ils sont pas sur des objectifs de court terme. Nous, on vit la vie politique à 5 ans. Et quand on annonce quelque chose, c'est pour les 2 ou 3 ans qui viennent. Là, ils annoncent pour la fin du siècle. Donc, ils sont dans une logique complètement différente. Ils sont en train d'un peu de redessiner le monde. Et cette logique aujourd'hui d'investissement considérable qu'a la Chine à l'extérieur, pour des raisons chinoises de surcapacité industrielle, d'internationalisation de la monnaie, pour des questions de leadership qui sont importantes en Asie. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même une ambition politique, c'est que la Chine est en train de devenir l'un des leaders du monde. Qui soutient l'ONU aujourd'hui? C'est M. Trump? Qui envoie de nouveaux jeunes au maintien de la paix? C'est Xi Jinping. Qui va renforcer l'UNESCO? C'est Xi Jinping. Qui joue le multilatéral? C'est la Chine. La Chine est passé d'un statut d'émergence. Vous savez, avant, on appelle ça souvent dans la politique française le mine de rien, celui qui avance sans que ça se voit. Le problème, c'est que la Chine a avancé comme ça sans que ça se voit, puis maintenant ça se voit. Il y a le G20, il y a les Jeux Olympiques, il y a l'Expo de Shanghai.
Il y a l'Afrique, où était encore Philippe Thiby il y a quelques jours.
Il y a l'Afrique, on les voit partout. Et donc, ils peuvent plus avoir cette logique un peu, qui était assez amusante, parce que quand ils veulent être pauvres, ils parlent du PIB par habitant, quand ils veulent être riches, ils parlent du PIB total. Donc, suivant l'intérêt de la discussion, ils affichent comme eux. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'ils sont devenus un leader du monde, pas forcément le seul, de ce monde multipolaire, avec une logique multilatérale. Et dans ce contexte-là, ils voient bien qu'il y a des hommes forts et qu'au fond, la Chine a intérêt à être guidée par un homme fort.
Philippe
c'est la
Thiby.
Vision générale, je crois.
Philippe Thiby, Pergamon Campus, Léon Leluza, le SCP Europe.
Il y a clairement une aspiration au co-leadership mondial avec les États-Unis, qui est la puissance qu'il respecte. Il ne respecte pas l'Union européenne. Avec l'Union européenne, il préfère avoir des relations bilatérales avec chacun des pays, voire avec des groupes de pays comme les pays des anciens pays de l'Est, parce que leur puissance, le rapport de force joue beaucoup plus facilement en leur faveur. Donc il y a cette aspiration, il y a une aspiration à la fierté, donc le fait qu'on rentre dans une nouvelle ère, que personnellement je ressens très bien lorsque je discute avec mes étudiants, c'est-à-dire que la personnalité du leader, le fait qu'il soit grand, qu'il voit les autres leaders de haut lorsqu'il leur parle, regardez que lorsque notre président parle à Poutine, il est au-dessus de lui, etc. Donc vous entendez des choses comme ça. Donc
fierté, il y a une fierté. Et l'humiliation.
Non, voilà. Il y a évidemment l'humiliation vis-à-vis de l'Occident, et spécialement du Royaume-Uni, en tout cas des puissances qui les ont battues au 19e siècle. Donc il y a cet aspect nationaliste qui est évidemment fort, enfin, ou patriotique qui est fort, puisque en tout cas dans les relations personnelles, il n'y a pas d'hostilité vis-à-vis des autres, des autres pays. Mais il y a un patriotisme évident, mais je crois aussi que donc il y a une fierté d'être chinois, et il y a aussi des objectifs qui sont pas aussi grandioses, je dirais, pour les individus. C'est-à-dire que on est dans un pays où les jeunes veulent avoir une vie matérielle de bonne qualité. Ils veulent gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'on demande, lorsque je demande à ma classe qui veut devenir riche, j'ai toutes les mains qui se lèvent. Je veux dire, je fais ça en France.
C'est ça que le gouvernement a peut-être facilité ces derniers mois le recours au crédit, ce qui a permis de stimuler la demande des ménages.
Oui, mais ça, c'est qu'il y a une des faiblesses, à mon avis, de l'économie chinoise, c'est que la productivité n'avance pas. Donc, pour obtenir la croissance qui est nécessaire pour que le pays reste stable, il faut mettre du capital. Donc, le capital est apporté par le crédit. Aujourd'hui, on a des limites. C'est-à-dire que la dette des entreprises privées, c'est 200% du PIB, c'est pour tout autre pays du monde, ça serait un énorme problème. Donc aujourd'hui, leur défi principal, c'est de continuer à nourrir les espoirs de cette jeunesse qui a vu ses parents être à la campagne dans des conditions, ou ses grands-parents dans des conditions matérielles extrêmement défavorables, qui est contente, un peu comme en France dans les années 60. Vous voyez, les Français étaient contents d'être sortis de la campagne. La campagne, c'est pas un endroit où la plupart des gens ont envie de vivre. Donc, si vous voulez, il y a cet aspect-là, et la difficulté, je pense, de délivrer aujourd'hui sans capital, en tout cas en arrêtant de mettre du capital, en arrêtant d'aller dans l'industrie lourde. Et pour ça, la Chine a besoin de technologie, elle a besoin d'investir dans des technologies, elle a besoin du monde extérieur, elle a encore besoin des Américains. Et je pense que c'est la ligne. Il y a une délégation qui négocie aujourd'hui à Washington pour éviter des représailles commerciales importantes, mais elle a besoin d'être sur une ligne, de marcher sur le fil du rasoir pour continuer à se développer sans énerver, entre guillemets, des partenaires compliqués.
Léon Leluza, un mot, puis on revient vite, justement, savoir si Xi Jinping, c'est le nouvel empereur. À tout de suite.
Je crois qu'au niveau des puissances extérieures, c'est vrai qu'on remarque d'une puissance économique, on passe à une puissance diplomatique. Ça, c'est un point fort. Et je rappelle qu'en 1830, la Chine représentait en termes d'économie un tiers du PIB mondial. Et je pense que là aussi, la Chine attend à ce que ce processus cyclique à redevenir cette grande puissance mondiale. Au niveau interne, je rejoins aussi, ce qui est important pour la jeunesse, c'est le niveau de vie. Je veux dire, je progresse. Et je rappelle que par rapport à 2012, quand même, le gouvernement a réduit la pauvreté de 10 à 4 %, c'est-à-dire plus de 60 millions de personnes sorties de la pauvreté. Et évidemment, le gouvernement va poursuivre.
On va continuer sur le BFM Business 600, avec les décodeurs de l'écho. Oui, pardon, monsieur le Premier ministre.
60 millions, je crois que c'est 600 millions. Non
600 millions,
ah, 600,
depuis excusez-moi. Le début. Oui.
600 millions.
Oui. À tout de suite sur BFM pardon. Business.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors le Parti communiste chinois ouvre la voie justement à ce qu'on lève la limitation constitutionnelle à 2 mandats de 5 ans pour le président de la Chine, Xi Jinping. Justement, on en saura plus lundi. Bon, a priori, tout est calé, tout est organisé, nous disait Valérie Niquet quand même. Bon, ça serait qui signe. Oui, ça sera amusant, nous disait-elle, qu'il n'arrive pas à ses fins. Elle signe la puissance chinoise en sans question. Jean-Pierre Raffarin, vous êtes avec nous, ancien Premier ministre, actuel président de la Fondation Prospective et Innovation. C'est vrai que cette restriction à 2 mandats, elle avait été décidée pour éviter un petit peu les luttes factionnelles de l'époque de Mao Tse-tung, pour permettre une gouvernance collective. Est-ce qu'on pourrait connaître des excès, justement, si jamais eh bien Xi Jinping concentre à nouveau les pouvoirs, s'il s'arroge donc eh bien un troisième mandat, un quatrième mandat? Est-ce qu'il y a un risque pour la stabilité à long terme du pays? Est-ce que c'est un jour risqué quand même?
C'est toujours risqué de prolonger le temps du pouvoir. Donc restons bien prudents là-dessus. C'est clair que certains disent le pouvoir corrompt. En tout cas, le pouvoir développe un certain nombre d'attitudes qui peuvent être déviantes. Et donc, il faut être nécessairement attentif. Et c'est jamais très bon quand, forcément, vu avec nos yeux occidentaux, quand quelqu'un qui est dans un système autoritaire cherche à se prolonger. Mais en l'occurrence là, ce qu'il faut bien voir, notamment quand on lit les 2 livres de Xi Jinping, il construit vraiment une stratégie, je dirais une stratégie un peu à la De Gaulle. Il met d'abord une vision. Alors naturellement, toujours avec les Chinois, une sémantique préparée. La communauté de destin de l'humanité. Et donc, c'est là, avec 2 fonctions importantes, la fonction du multilatéralisme, je défends le multilatéralisme, et d'autre part, je me positionne notamment sur les sujets d'avenir, comme le climat. La France a été assez surprise, d'ailleurs, de voir que la Chine l'a soutenue dans la COP21, puis sur le climat, de manière très importante.
Et dans la réplique à Donald Trump aussi.
Mais ça, c'est un thématique, c'est la vision, de ce que dit Xi Jinping en permanence, on ne peut pas réussir tout seul, la coopération internationale est la solution, et donc, c'est pain béni que Trump se retire du climat, parce que les Chinois affirment comme la grande puissance. Donc ça, c'est la vision. Ensuite, derrière la vision, il y a le projet. Le projet, c'est comment on met ça en ordre. Et on met ça en ordre avec 1000 milliards, et c'est les routes de la soie. Ensuite, il y a l'idéologie. Comment est-ce qu'on organise cette mise en œuvre et cette valorisation du projet? Et là, vous avez cette idéologie qu'ils sont en train de définir, qui est le socialisme à caractéristiques chinoises, avec un retour au vocabulaire marxiste-léniniste. Et donc, il y a là quelque chose qu'il faudra explorer, que les chercheurs doivent explorer, mais qui est au fond quand même une pensée politique qui dit « je ne veux pas devenir un pays occidental ». Donc tous ceux qui pensaient que la Chine un jour deviendrait occidental, non, nous sommes marxistes-léninistes. Et je termine par le prosélytisme, par la diplomatie très active, où là, il y a les centres Confucius, il y a les initiatives, il y a ces 15 000 stagiaires que va accueillir le Parti communiste pour observer que le monde observe ce qu'est le fonctionnement du Parti communiste. Et derrière tout ça, il y a cette grande logique de puissance. Ils vont faire une grande conférence cette année sur la philosophie. Ils vont inviter les plus grands philosophes du monde. Il faut une conférence internationale sur le marxisme. Tout ça, c'est un prosélytisme. Donc ce que je veux dire, c'est que Xi Jinping a bâti un énorme projet. Et que cet énorme projet, il doit estimer, mais je pense que ses amis l'estiment aussi, qu'il n'y a que lui pour le porter. Donc c'est comme ça que j'interprète, si je mets mes lunettes chinoises, cette stratégie.
Et tiens, justement, à propos de philosophie, Shao Ting Qiang, que vous avez traduit, Jean-Paul Chang, justement. Oui, l'élite politique, elle peut se rebeller ou pas face à un Xi Jinping qui va jouer les prolongations? Comment est-ce qu'un homme comme Xi Jinping peut prendre des décisions d'envergure, finalement? Aller sans réel contre-pouvoir, sans conseils éclairés avec des gens qui finalement sont garde à vous derrière lui, non? Ou devant lui plutôt?
Non, puisque on sait que la production de chaque équipe dirigeante tous les 5 ans font l'objet de longues négociations, de palabres, de compromis avant d'arriver donc à une sorte de consensus. Donc l'élite, par définition, n'est pas totalement uniforme. Et qu'ensuite, c'est vrai qu'à un autre degré, au niveau des intérêts économiques, cette élite est même peut-être plus divisée qu'on ne le pense. Hein. C'est un peu ce qui se passe. Donc, en ce qui me concerne, encore une fois, je vous dis, il ne faut pas surestimer la facilité avec laquelle le Xi Jinping est arrivé à imposer son pouvoir et que tout va se faire parce que simplement sa pensée sera écrite à l'intérieur de la Constitution ou des statuts du parti. en même temps que tous les autres. Hein. Oui, vous savez, quand vous avez fait un mandat, vous avez droit tout de suite au deuxième mandat, comme Chiang Zemin avec sa... avec ses trois priorités, ou
les trois représentations,
Hu Jintao avec sa théorie scientifique.
C'est les deux prédécesseurs.
Deng Xiaoping, c'était la théorie du socialisme.
Oui, mais eux avaient organisé leur succession. Là, il n'y a pas de successeur pour l'instant. Oui. Ils bloquent toute succession.
Précisément, parce que, effectivement, je pense que, quelque part, une partie de l'élite chinoise, on estime quand même que Xi Jinping, il a des inconditionnels, en tout cas des partisans très, très forts, qui représente à peu près 60% du comité central. À peu près. Bon. Ça ne veut pas dire que les autres sont contre lui, mais en tout cas, ceux qui sont sûrs, en tout cas. Voilà. Et que, à ces niveaux-là, il n'a pas trop de problèmes. Donc, et quelque part, il peut compter là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, cette convocation du comité central est quelque chose de totalement inédite. C'est-à-dire un troisième plénum du Parti communiste chinois en moins de 2 mois par rapport au précédent pour approuver ces changements constitutionnels, parce qu'il n'y a pas que le mandat présidentiel, il y a encore d'autres choses, hein, l'écologie, etc., etc. Donc c'est très important de dire que c'est probablement parce qu'il n'y a pas ce qu'on croit, savoir une unanimité de godillots qui se lèvent tous pour dire Xi Jinping a dit, donc on le fait. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il est obligé de convoquer le comité central pour marquer un peu plus l'adhésion.
Ouais. Donc c'est pas forcément risqué, Valérie Niquet ?
Oui, et par ailleurs, l'annonce officielle a été faite bien après que la décision ait été prise. Donc on voit, il y a des oppositions à Xi Jinping en Chine. On le sait quand on va en Chine, qu'on discute avec certains vieux militaires, par exemple, que bon, tout le monde n'est pas d'un enthousiasme vraiment. Servir le peuple, c'est la devise du Parti communiste. Avant, l'intérêt économique, la corruption aidait beaucoup à servir le peuple. On dit qu'il est populaire dans la population à cause de sa campagne anticorruption. C'est extrêmement difficile de savoir ce que pensent les gens réellement en Chine. Beaucoup de cadres doivent penser qu'il va quand même un peu loin dans la reprise en main des gens qui s'étaient habitués tout simplement à ne plus avoir peur depuis la mort de Mao et l'arrivée de Deng Xiaoping. On vivait assez tranquillement quand on ne risquait pas grand chose quand on était cadre en Chine. Aujourd'hui, il y a des gens qui de nouveau ont peur. Et une des traductions de ça, c'est de voir que on place les enfants, l'argent, on prend des garanties à l'étranger, on essaie de se protéger. Et la difficulté, c'est est-ce qu'on peut gouverner un grand pays comme la Chine ? Bien sûr qu'on le peut pour un certain temps, en bouclant tout d'une manière beaucoup plus autoritaire. Et on parlait de la jeunesse tout à l'heure, mais la jeunesse n'a pas connu la période maoïste. Pour elle, cette reprise en main d'Internet, ces contrôles qui se multiplient, c'est tout simplement comme quand on dit à un garçon, moi j'ai 3 fils, donc un adolescent, fini Google, je veux dire, bon, ça les agace. Il y a aussi ces côtés-là, tout simplement. On s'est habitué à une certaine liberté. L'étatisation aussi. La normalisation du régime après Deng Xiaoping, qui semble aujourd'hui remise en cause. Et tout ça suscite, comme le disait très bien Jean-Paul Chang, des gens qui ne vont pas se lever pour se révolter ouvertement, mais des freins certains et des interrogations sur la capacité à s'imposer.
C'est le nouveau Mao Tse-Tung, parce que c'est quand même l'homme qui, depuis Mao Tse-Tung, cumule quand même le plus de pouvoir. Juste d'un mot.
Mais il a l'air quand même
nettement.
À mon avis, il est moins irrationnel que pouvait l'être Mao Zedong. Ceci dit, il a l'air très séduit par le culte de la personnalité à la maoïste.
On voit là à la télévision. Juste un mot, l'économie chinoise, elle a progressé de 6,9% en 2017, tirée par les dépenses d'infrastructures, la reprise d'exportation, la demande des ménages, on en parlait tout à l'heure, la première fois depuis 2010 d'ailleurs que l'activité de la Chine accélère. Il reste des ombres, hein. Quelles sont-elles principalement ? Philippe Tibi, Jean-Pierre Raffarin, Léo Lolusa, dites-moi un mot, c'est quoi la principale menace ? Peut-être à part la corruption ? C'est le système financier qui est chancelant ?
Non, c'est la dette, même si les contours ne sont pas les mêmes qu'en Occident, et c'est une productivité trop faible. Donc c'est la productivité qui assure la hausse du niveau de vie, surtout lorsqu'on a épuisé les limites au niveau du capital. Et ça explique aussi l'effort considérable, à mon avis, très sous-estimé en Occident, que fait la Chine sur les nouvelles technologies. C'est-à-dire que la moitié de l'investissement privé qui va sur les start-up d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est alloué à des sociétés chinoises. Donc 30% de l'innovation de rupture va à des sociétés chinoises.
Et c'est vrai que
donc ça va très vite. Enfin, ils mettent un effort très important maintenant pour que ça fonctionne de façon satisfaisante. Il faut des bonnes universités, il faut des gens qui ont été diplômés, etc. Et là, il y a un effet
temporelle qui ne donne pas encore aujourd'hui les résultats à la hauteur des résultats des Baidu, des Tencent, WeChat et compagnie, et Alibaba.
Le consommateur chinois, il est de plus en plus exigeant, ça bouge vite. En effet, Alibaba, Tencent, Léon Lelusa.
Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a aussi un des points que Xi Jinping voudrait aussi réduire, c'est la spéculation immobilière.
Oui.
Donc ça, c'est un point important. C'est vrai que vous disiez, c'est vraiment le Made in China, c'est-à-dire le plan 2025 où c'est la manufacturière intelligente. Et là, justement, en termes d'intelligence artificielle, la Chine va investir d'ici 2020 entre 20 et 50 milliards d'euros sur cet aspect-là. Et vraiment, en 2025, la Chine projette de produire par elle-même des composants à 40%. Et en 2035, je crois, de mémoire, 70%. Et 2045, 90%.
Les Jean-Pierre Raffarin.
Je rejoins tout à fait, c'est très important ce qu'il dit sur l'innovation. Hein. Ce qui m'avait frappé dans la première lecture que j'ai fait du livre de Xi Jinping, c'était la présence du mot innovation. Partout, partout. C'est vraiment l'appel aux jeunes. Et quand il parle de liberté, en fait, il parle de la liberté de créer pour les jeunes, pour développer cette intelligence ajoutée. Moi, je dirais que le risque important, c'est pas tellement ce qui pèse sur la croissance, puisque globalement, quand même, ils sont au double de la croissance mondiale. On dit qu'ils ralentissent, mais ils ralentissent dans la croissance. Hein, et donc, ils sont au double de la croissance mondiale. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que, au fond, il y a une forme de congestion du sujet. C'est que comme les gens ont peur, les décisions deviennent lentes, la concentration des pouvoirs fait que la mécanique n'a plus sa puissance, et notamment le pouvoir des provinces, le pouvoir des acteurs locaux. Il y a un système qui est en train de se congestionner un peu.
Dernière question, tiens, j'en profite. Jean-Pierre Raffarin, c'était une information que nous donnait Mathieu Pechberti sur BFM Business, l'État qui renonce à la privatisation de l'aéroport de Toulouse. L'État a-t-il eu raison de renoncer, de céder 10% du capital de Toulouse, donc au groupe chinois Casil, qui du coup ne sera pas majoritaire?
Je pense que l'État est actuellement en train de revoir toute sa politique en matière d'accueil des investissements asiatiques. C'est une révision d'ailleurs qui est faite en accord avec les partenaires européens, puisque la Commission fera des propositions au mois de juillet. Et je pense que cette décision s'inscrit dans cette nouvelle politique des investissements. C'est le discours d'Emmanuel Macron. Il y a des secteurs qu'on veut protéger, il y a des secteurs sur lesquels on est ouvert. On comprend que la Chine ait besoin de sa souveraineté, mais nous avons nous aussi notre souveraineté. Il y a des sujets sur lesquels on est ouvert, il y a des sujets sur lesquels on l'est moins. Et je pense que l'État, dans ce type de décision,
il a bien fait.
s'inscrit dans cette nouvelle politique qui est une politique qui marque un certain nombre de territoires qui sont les territoires pour lesquels nous voulons protéger notre souveraineté, mais je dirais surtout la souveraineté de l'Europe.
Alors justement, l'Europe, vous comprenez les réticences. On voit l'une des ministres en Allemagne à Berlin au niveau de la chancellerie réticent à ce que Jining donc prenne le contrôle de Mercedes. Là aussi, ils ont raison de se poser des questions, ils ont raison de regarder le dossier.
Là, il y a toute une négociation, je pense, parce que dans l'automobile, en ce moment, il y a un certain nombre de difficultés. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire d'idéologie avec les Chinois. Et donc, en matière de grands projets d'investissement, comme de la route de la soie, il faut être pragmatique. Il faut faire en sorte qu'on puisse discuter de nos projets, nos règles, nos entreprises. Si on fait que de l'idéologie, ça n'intéresse pas les Chinois. Et donc, tous ces discours aujourd'hui qui ne sont pas concrets, est-ce qu'on veut des projets dans la route de la soie? Est-ce que le Lyon-Turin, c'est un projet de la route de la soie? Est-ce que le canal Seine-Nord, c'est un projet de la route de la soie? On voit qu'on est obligé de reporter un certain nombre de crédits parce qu'on reporte des projets, parce qu'on n'est pas capable de les financer. Si on discute sur ces projets, alors là, on pourra dire ce que nous voulons, ce sont nos projets, nos règles, l'ouverture des marchés publics, la discussion, et puis aussi, naturellement, ce qu'on veut, c'est que nos entreprises participent. Mais si on ne discute pas concrètement avec les Chinois, on perd son temps.
Voilà, merci à tous. Merci Valérie Niquet, responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Profitez-en, la puissance chinoise en 100 questions. C'est à chaque fois rapide, une question, une réponse, deux pages, c'est court. Elle aborde tous les sujets, tout ce qu'on vient de se dire, notamment ce soir. Jean-Paul Chang, économiste, ancien banquier, spécialiste de la Chine, hein, qui a traduit donc le philosophe Cao Tingyang au travers de Tangcha. Tout sous un même ciel. Ça va sortir dans quelques semaines. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre qui préside actuellement la Fondation Prospective Innovation, très impliqué sur la Chine, on l'a compris. Philippe Thiby, enseignant à l'IX, à la Polytechnique, enseignant également auprès de dirigeants chinois dans le cadre de son école d'économie Pergamon Campus. Et puis Léon Lelusa, donc directeur général adjoint de l'ESCP Europe. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.